20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, une carte blanche au Louvre, un nouvel enregistrement et une tournée américaine en perspective. L'aventure de Klaus Macaulay à la tête de l'Orchestre de Paris connaît un bel essor en ce moment. Nous en parlerons justement ce soir avec le chef finlandais qui sera tout à l'heure à notre micro. Le temps de notre tour d'horizon quotidien de l'actualité musicale. Ils seront six violonistes français à participer aux épreuves finales du concours Reine-Elisabeth, dont l'édition est donc cette année consacrée au violon et se tiendra en mai prochain à Bruxelles. Si deux musiciens français ont brillé ces dernières années au concours, le pianiste Jonathan Fournel il y a 3 ans et le violoncelliste Victor-Julien Laferrière en 2017, aucun violoniste français n'a été couronné d'un premier prix depuis la création de ce concours en 1937. On compte donc sur Eva Zavaro, Emmanuel Copé, Thomas Lefort, Léon Hafner, Luca Ispire et Nathan Myrdel pour y remédier. Vous cherchez des idées de concerts dans votre région, vous avez envie de donner de la visibilité à une manifestation musicale à laquelle vous participez, y compris dans le milieu amateur. Le site Concert Classique vient de lancer un agenda collaboratif permettant de référencer, éditer, modifier des annonces de concerts en toute autonomie et surtout gratuitement. Un agenda qui s'ouvre ainsi à l'ensemble des professionnels et des acteurs de la musique classique sans aucune hiérarchie, mais dans l'idée justement de souligner la variété et la richesse de l'actualité musicale en France. Une nouvelle interface a donc été créée, simple et intuitive. N'hésitez pas à vous connecter donc sur le site Concert Classique, qui référence déjà plus de 1500 concerts en permanence et devrait, grâce à cette nouvelle fonctionnalité, devenir l'un des agendas les plus complets qui soit dans le domaine de la musique classique. L'ensemble, les ambassadeurs et la grande écurie poursuit sa résidence croisée avec le Centre de musique baroque de Versailles, évoquant le faste des spectacles de la cour de Louis XIV. Au programme de ce nouveau volet, l'une des œuvres emblématiques de Lully, Attis, donnée ici en version de ballet et de concert, avec une splendide distribution. Mathieu Vidal en Attis, Véronique Gens en Cybèle, Véronique Gens qui faisait d'ailleurs partie de la distribution de la fameuse production de William Christie dans les années 80. Citons également Sandrine Pio, Tassis Christoyanis ou encore Eleonore Pancrazzi avec le ballet de l'Opéra Grand Avignon sous la direction d'Alexis Kosenko. Un spectacle à découvrir ce dimanche à l'Opéra d'Avignon, puis à Tourcoing le dimanche 17 et au Théâtre des Champs-Élysées le 26 mars. Enfin, un petit coup d'œil sur l'actualité discographique avant de découvrir le nouvel enregistrement de Klaus Macaulay avec l'Orchestre de Paris. Je vous propose d'écouter quelques notes du nouvel album de Beatrice Rana qui sortira vendredi chez Warner. La pianiste italienne a choisi ici de mettre en regard Chopin et Beethoven à travers deux grandes sonates, la Marche funèbre et la Hammerklavier. Ces deux sonates en si bémol transcendent la condition humaine de manière très différente, mais pas tout à fait différente. Elles ont toutes deux beaucoup à voir avec la peur de la mort, avec la peur de la solitude. Chacune trouve une solution de manière différente, nous dit la pianiste italienne Beatrice Rana, que l'on écoute ici dans le deuxième mouvement de la sonate Hammerklavier de Beethoven.
Thank you.
Le deuxième mouvement de la sonate Hammerklavier, la 29e sonate de Beethoven par Beatrice Rana, un extrait de ce nouvel album de la pianiste italienne qui sort vendredi chez Warner.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Et c'est aussi vendredi que sera publié le deuxième enregistrement de Klaus Mäkelä avec l'Orchestre de Paris chez Decca. L'Orchestre de Paris qui joue ce soir et demain soir à la Philharmonie avec son chef avant de s'envoler pour une grande tournée aux États-Unis. Et cela tandis que vient de débuter leur carte blanche au Musée du Louvre, une carte blanche qui se poursuivra jusqu'au 16 juin. C'est la semaine dernière, juste avant le grand concert associant musique et cinéma autour des trois grands ballets de Stravinsky, un concert que nous avions évoqué avec le réalisateur Bertrand Mandico. C'est donc juste avant ce concert que je suis allée rencontrer Klaus Mäkelä à la Philharmonie de Paris. Dans quelle mesure ces ballets de Stravinsky que ces musiciens ont beaucoup interprétés depuis 2 ans ont-ils joué un rôle essentiel dans son travail avec l'Orchestre de Paris ? C'est la première question que je lui ai posée. On l'écoute.
C'est ce répertoire que j'aime le plus avec cet orchestre, car c'est comme si c'était composé pour eux. Il représente toutes nos forces. Nous avons des personnalités et des caractères incroyables, mais aussi cette variété très spéciale de sonorités qui est parfaite. Et ce que nous entendons dans les trois ballets, ce sont trois façons complètement différentes de traiter l'orchestre. Nous avons donc une très grande palette de nuances.
Vous dirigez donc les ballets de Stravinsky associés à une projection de film. Vous débutez une carte blanche au Musée du Louvre, au milieu des tableaux donc. Associer le visuel et la musique est assez complexe. Comment faire pour qu'ils se nourrissent l'un l'autre et qu'ils ne se gênent pas ?
Dans le projet Stravinsky, notre idée est d'amener les ballets russes dans le présent, à l'époque de Diaghilev, il y a un peu plus d'un siècle. Les meilleurs artistes du moment travaillaient ensemble, dans des domaines artistiques différents. D'une certaine manière, l'idée d'associer film et musique est une version moderne de ce principe, qui consiste à réunir les meilleurs cinéastes et la musique la plus emblématique du monde. En ce qui concerne le Louvre, je suis très enthousiaste, car c'est l'un de mes endroits préférés au monde. J'ai été très inspiré en faisant la programmation, après avoir vu les salles, les œuvres, les galeries. Par exemple, nous avons des scènes de bataille sur les murs. Et j'ai pensé que nous devions jouer l'octuaire d'Enesco là-bas, parce qu'il y a toute cette intensité. On retrouve la dynamique de 8 personnes qui peuvent vraiment s'affronter et qui, bien sûr, trouvent la paix à la fin.
C'est donc la peinture qui décide de la musique et non l'inverse.
J'ai été vraiment inspiré par les peintures et j'ai pensé que nous devions jouer des pièces s'inspirant directement de celles-ci, plutôt que l'inverse, effectivement.
Et quel est votre lien avec l'art visuel, avec la peinture, vous qui êtes d'ailleurs un photographe passionné?
J'adore les arts visuels. Et depuis mon enfance, je suis toujours allé dans les musées. Je le fais encore chaque semaine lorsque je me déplace. Je trouve cela extrêmement stimulant. C'est une expérience merveilleuse d'observer une peinture. Et c'est aussi un processus d'auto-réflexion pour moi. Parfois, je vais dans des musées uniquement pour voir une peinture précise. Parce que je veux être inspiré. J'apprécie énormément cette expérience.
Et vous avez des salles préférées dans ce musée, des peintures, des périodes préférées ?
Of course, Italian Renaissance is
bien sûr, la Renaissance,
it's extraordinary.
C'est extraordinaire.
It's a museum which is equivalent to,
mais pas seulement. C'est un musée qui peut être comparé au répertoire d'un orchestre symphonique, tellement sa collection est riche.
Durant cette carte blanche au Louvre, vous investirez différentes salles du musée.
Oui, et j'apprécie beaucoup le fait que nous puissions être dans différents endroits, différentes galeries avec des atmosphères spécifiques. Et bien sûr, nous jouons aussi sous la pyramide, ce que nous avons déjà fait 2 fois avec l'orchestre pour la fête de la musique. C'est très spécial, parce que l'atmosphère est tellement agréable aussi. C'est toujours ce dont je me souviens le plus chaque année.
Alors, à l'occasion de cette carte blanche, Klaus Makelay, vous jouerez avec des effectifs musicaux très variés, de la musique de chambre jusqu'au grand orchestre. Est-ce essentiel, justement, pour un directeur musical, selon vous, de connaître son orchestre à travers, justement, des textures différentes ?
J'aime quand on peut avoir de la diversité, du groupe de musique de chambre avec quelques musiciens au grand orchestre. Et c'est aussi personnellement très amusant. Hier, nous avons commencé à répéter Enesco avec des membres de l'orchestre. Et c'était tellement agréable de jouer avec eux. C'était comme un groupe de musique de chambre tout à fait normal. Ils m'ont traité de manière fantastique et très naturellement, sans hiérarchie. C'était absolument merveilleux. Nous nous sommes beaucoup amusés. Nous cherchions des choses et nous continuerons à le faire en concert. En tant que directeur musical, il est réconfortant de faire de la musique entre amis et de ne pas toujours être sur le podium.
Alors, pouvez-vous nous dire quelques mots sur le programme que vous jouerez au mois d'avril devant le Sacre de Napoléon de David ? Vous jouerez à cette occasion de la musique anglaise.
Ce sera un programme très spécial. Dès que j'ai vu le tableau, j'ai pensé que nous devrions faire « 8 Songs for a Mad King » de Peter Maxwell Davis. C'est l'une de mes œuvres préférées et l'une des pièces les plus choquantes au monde. Nous conclurons en quelque sorte le thème royal avec la musique pour les funérailles de la reine Marie de Purcell. Des musiques qui, je pense, s'accordent parfaitement.
La danse de Petrouchka de Stravinsky par l'Orchestre de Paris et Klaus Makelay, un extrait de cet enregistrement, le second du chef finlandais avec son orchestre.
Et c'est la musique de Stravinsky que Klaus Macaulay a choisi d'emmener dans ses bagages à l'occasion de la grande tournée américaine qu'il donnera avec l'Orchestre de Paris du 14 au 19 mars. Une tournée qui marquera le grand retour de l'Orchestre de Paris en Amérique du Nord, où il n'avait pas joué depuis plus de 20 ans, et les débuts de Klaus Macaulay à Carnegie Hall. Klaus Macaulay qui vit ainsi une nouvelle étape particulièrement exaltante de sa carrière.
I'm very humbled and very grateful because it's really an amazing trip ahead.
Je suis très honoré et reconnaissant car c'est vraiment une expérience extraordinaire que de pouvoir aller au Carnegie Hall.
It really could not be better.
C'est la première fois que j'y jouerai avec l'orchestre et on ne peut rêver mieux. Je suis bien sûr très fier car nous avons beaucoup travaillé avec l'orchestre et c'est ce répertoire que nous voulons présenter au public. Je pense que le public du Carnegie Hall, les habitants de New York, ont besoin d'entendre notre perception de ces musiques. Comment le Sacre du printemps sonne selon nous. Car je pense que la façon dont l'orchestre joue ses œuvres, ce qu'il donne à cette musique est vraiment unique. C'est donc merveilleux, et bien sûr, je suis très fier d'apporter la culture de l'orchestre français là-bas aussi.
You will conduct Stravinsky.
Vous jouerez donc à cette occasion Stravinsky et d'autres compositeurs russes.
Yes, and of course, so we do Stravinsky, Firebird.
Oui, et bien sûr, nous jouons l'Oiseau de feu et le Sacre du printemps. Je continue à penser que ces deux partitions, même si elles ont bien sûr leurs racines dans l'écriture orchestrale russe, sont très françaises. Et je veux aussi m'assurer que le public comprenne la couleur de l'orchestre, que nous faisons vraiment ressortir une texture et un son complètement différents.
Then we also have Yun Chan Lim, who
nous serons également avec Yun Chan Lim, un nouveau grand maître du piano, qui jouera le deuxième concerto de Rachmaninov.
Alors, votre nouvel enregistrement avec l'Orchestre de Paris vient de paraître chez Decca. Il associe Petrouchka de Stravinsky à des pages de Debussy, Jeu et le prélude à l'après-midi d'un faune. Comment percevez-vous le langage, le son de Debussy?
Ces pièces sont pour moi la Bible de la musique française. Je était pour moi la plus grande, la plus difficile, la plus gratifiante et la plus effrayante chose au monde parce que c'est une œuvre tellement complexe. Et les faire avec cet orchestre m'a semblé très spécial. Parce qu'ils respectent la musique d'une manière assez unique. Ils apportent quelque chose de complètement différent de ce que n'importe quel orchestre ferait avec cette musique. Même s'ils n'ont pas beaucoup joué récemment, ils sont néanmoins très expérimentés. Ce qui est bien parce que cela signifie que nous sommes assez flexibles avec cette partition. L'enregistrement a été un voyage, une sorte de cheminement. Nous avons commencé il y a un an, en concert, puis nous avons prolongé en studio. Pour en revenir à cette œuvre, tout le monde l'a assimilée. Nous avons passé de nombreux jours à la répéter avant de l'enregistrer. Cela nous semblait juste parfait.
Et vous avez d'autres projets d'enregistrement avec l'Orchestre de Paris?
Oui, nous avons beaucoup de choses à venir. Et je suis très enthousiaste à ce sujet car c'est aussi pour moi une grande fierté d'enregistrer avec cet orchestre parce que c'est un groupe de musiciens merveilleux. Nous enregistrons dans la meilleure acoustique du monde. Et le son que vous obtenez dans cette salle est tout simplement incroyable. Nous utilisons beaucoup de microphones, entre 60 et 70 micros, et donc 60 à 70 canaux, ce qui est presque le double de la formule habituelle. Et le son, la transparence, les détails, mais aussi le mélange des sonorités. Je suis tellement fier de ce que l'on peut réaliser dans ce lieu, avec ces personnes-là.
Et vous semblez très impliqué dans le processus de l'enregistrement, y compris sur le plan technique.
J'essaie de ne pas faire de micro-gestion, mais je suis obsédé par les petits détails, et j'adore ça. Bien sûr, ça ne serait pas possible sans mon producteur absolument génial, Jørn Pedersen, qui a réalisé le cycle Sibelius à Oslo pour Decca. Et ici aussi, il fait un travail merveilleux. Oh.
Un extrait de Jeu de Debussy par Klaus Macaulay et l'Orchestre de Paris. Klaus Macaulay, qui s'est confié ces derniers mois au réalisateur Bruno Mont-Saint-Jean. Bruno Mont-Saint-Jean qui sait si bien capter l'âme des musiciens. Alors un film portrait, très attendu, sera diffusé prochainement sur Arte et projeté en avant-première le 12 avril à l'Auditorium du Louvre. Se laisser filmer, un exercice qui peut être intimidant, mais que le chef finlandais a vécu de façon très naturelle aux côtés de Bruno Mont-Saint-Jean, comme il me l'a confié.
Bruno is such a special man.
Bruno est un homme très spécial. Et je me suis senti très honoré qu'il fasse ce film. C'est presque un rêve qu'il l'ait fait. Il a rendu les choses extrêmement simples, parce que c'est une personne très sincère. Et je sais que ses intentions sont toujours, non pas de me donner une bonne image, mais de faire en sorte que la musique semble intéressante pour un maximum de personnes. Il aime la musique, et j'aime la musique. Je savais donc qu'il réaliserait un film sur la musique, mais pas nécessairement sur moi. Et cela m'a rendu très heureux. Parler avec lui a toujours été très agréable, parce que c'est comme parler à un collègue, à un ami. Je n'étais même pas vraiment gêné par les caméras, car j'avais confiance en lui.
Vous avez passé beaucoup de temps avec lui, pas seulement à Paris d'ailleurs.
Oui, nous avons beaucoup voyagé, et je le vois très souvent. Je pense que c'est aussi pour cela que j'ai senti que nous pouvions être tous les deux si à l'aise. Mais vous savez, le voir est toujours très intéressant, parce qu'il est sans cesse amoureux d'une œuvre de musique. Et bien sûr, il a ses compositeurs de cœur, comme Mozart, qui est son grand amour, et aussi le mien. Et il a ce genre d'enthousiasme, cet amour, cette passion qui vous réchauffe le cœur.
Thank you.
Le prélude à l'après-midi d'un faune, un nouvel extrait du deuxième enregistrement de Klaus Mäkelä avec l'Orchestre de Paris, un enregistrement qui sort vendredi chez Decca. Klaus Mäkelä qui dirige ce soir et demain soir ses musiciens à la Philharmonie de Paris avant de les emmener pour une grande tournée américaine à partir du 14 mars. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Charlotte Thoreau-Lassalle pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du jeune quatuor Agathe. Mais tout de suite, votre soirée se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.